Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Hey! Oh, yeah, I only eat organic food. If I'm gonna eat the food, it must be organic.
Bonjour, dernière étape au Parlement européen pour la nouvelle PAC. Après des mois de pourparlers souvent difficiles, les négociateurs des États membres et du Parlement se sont accordés sur cette nouvelle politique agricole commune qui s'appliquera en janvier 2023. Cette PAC, elle est présentée comme plus verte. La réforme prévoit d'accorder des primes aux agriculteurs participant à des programmes environnementaux plus exigeants, recourant à des techniques plus écologique ou contribuant à améliorer le bien-être animal. Alors qu'en Europe, de plus en plus de personnes se tournent vers le bio, même si cette notion de bio ne recouvre pas tout à fait la même chose dans l'esprit de ses consommateurs. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Qui parmi vous mange bio? Dénoncez-vous, n'ayez pas peur. Parce qu'il faut bien avouer que cela n'a pas toujours bonne presse en France, où bio rime avec bobo. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en avait même fait son ennemi pendant la primaire de la droite française en 2016.
Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le fauné d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts.
Pour une partie de la classe politique, il y a bien un spectre en Europe, le spectre du terrible bobo qui hante les fermes pour détruire la puissance agricole nationale.
Cette élite-là, elle n'a jamais mis les pieds dans les exploitations agricoles au bord du gouffre, même si elle aime avec son panier en osier aller acheter des œufs frais le matin chez la fermière.
Alors vente directe ne veut pas dire bio. Et bio ne veut pas toujours dire bon pour la planète. Des avocats produits au Pérou ou des tomates poussées sous serre en Hollande en janvier, même bio, ont un bilan carbone désastreux. On mélange un peu tout. Qui mange bio, dans l'imaginaire collectif, a de l'argent et déconnecté des réalités. Un urbain qui vote plutôt à gauche. À la limite, peu importe s'il mange vraiment son quinoa sans pesticides. Mais cette catégorisation est très française. En Allemagne, le plus gros marché bio en Europe, avec 15 milliards d'euros consacrés à ses produits l'année dernière, cette segmentation politique n'est pas aussi forte. Certains produits bio se trouvent à des prix très démocratiques. D'ailleurs, Aldi, la chaîne Discount, possède une part significative du marché. C'est bio, pas cher et pas bon, mais ça, c'est un autre problème. En Italie, c'est encore autre chose. Le bio n'est pas un argument de vente. La consommation de ces produits est d'ailleurs très basse, même si elle a beaucoup augmenté depuis le début de la pandémie de Covid. On en trouve, bien sûr, dans des magasins spécialisés ou des grandes surfaces. Mais si vous allez au marché, vous aurez de la peine à voir un stand qui s'affiche bio. Les marques qui en font ne mettent en avant ni la santé ni l'environnement dans leurs pubs.
Mi piace stare in forma.
J'aime être en forme.
Mi piace la pasta.
Et j'aime les pâtes. Alors après avoir été courir, je me fais un bon plat de pâtes.
Meglio se in compagnia.
L'acteur Can Yaman, turc italophone à la plastique bodybuildée et reluisante, fait des pâtes à son groupe de fans, des femmes évidemment sous le charme.
Buonissimo.
Si, buonissimo la pasta.
C'est bio, mais on l'entend à peine. L'argument de vente est ailleurs, dans le sexy et le glamour. En Italie, ce qui fait sens, à part caresser ses muscles saillants sous la douche pendant que les pâtes cuisent, c'est de manger local. Du bio, on en produit dans le pays. 15% des surfaces agricoles y suivent un cahier des charges spécifiques. Dans toute l'Union européenne, c'est 8%. Mais c'est pour l'exportation, pour les Suédois, les Danois, les Autrichiens. En Europe, on produit du bio dans le sud, l'Espagne est le premier producteur, mais on en consomme dans le nord. Paradoxalement, les Italiens sont très préoccupés par le contenu de leur assiette. Ils font partie des Européens qui dépensent le plus dans l'alimentation, avec les Roumains, les Lituaniens. Ils savent reconnaître un bon produit. Une amie italienne prétend d'ailleurs que ses compatriotes sont plus écolos que les Néerlandais. D'accord, ils roulent en voiture et pas en vélo, Mais ils mangent des produits de saison, cultivés raisonnablement, près de chez eux. Et en plus, ils ont du goût.
Cette nouvelle PAC s'inscrit dans un vaste mouvement de société. Manger mieux, des produits de meilleure qualité pour la planète et pour la santé, produits localement. Et ce mouvement dépasse bien sûr les frontières de l'Union européenne. Il touche même nos voisins britanniques, Marie Billon. Des Britanniques sensibilisés ces dernières années par un chef superstar, Jamie Oliver.
Jamie Oliver a la popularité d'une star du showbiz et c'est grâce à des coups de pub comme celui-ci.
Simply take a selfie of you covering up your eyes, because frankly, the only thing that's going to stop your kids from seeing junk food advertising is that.
En 2018, il a demandé aux Britanniques de prendre un selfie en se couvrant les yeux. Parce que franchement, dit-il, il n'y a que comme ça que vos enfants ne verront pas de nourriture malsaine ou de réclames faisant leur pub. La campagne « Had Enough », traduisée « J'en ai assez », a été un succès populaire. On a pu voir sur les réseaux sociaux des yeux couverts par des mains, mais aussi des brocolis, des pommes, des cuillères à salade, bref, des moyens originaux et pertinents de faire passer le message. Mais ce n'est pas cette campagne qui poussera le gouvernement à réglementer les pubs pour les produits malsains. Ce sera plutôt le coronavirus. Boris Johnson, lui-même en surpoids, qui a frôlé la catastrophe lorsqu'il a eu le Covid début 2020, a décidé de rejoindre le combat contre la malbouffe, un combat qui avait été initié par David Cameron, dit Jamie Oliver, mais l'ex-premier ministre a perdu son poste à cause du Brexit et depuis, rien de sérieux n'avait été fait, estime-t-il.
I won't deny that I'm surprised. But pleasantly surprised.
Agréablement surpris, a dit Jamie Oliver à la chaîne Sky News en juillet 2020, quand Boris Johnson a annoncé sa nouvelle campagne Better Health, une meilleure santé. Les pubs pour les aliments gras et sucrés sont interdites sur les chaînes du service public avant 21h et à partir d'octobre 2022, les promotions 2 pour le prix d'un seront interdites sur le même type d'aliments malsains. Arrêter la malbouffe est une chose, mieux manger en est une autre, surtout quand les produits frais sont les premiers à se faire rares en cas de difficulté d'approvisionnement, comme on a pu le voir au Royaume-Uni à l'automne. La solution, c'est manger local, disent plusieurs associations. Le gouvernement écossais vient d'introduire un projet de loi, Good Food Nation, la nation de la bonne bouffe, début octobre. Le but est notamment de promouvoir les circuits courts. Mais là, Jamie Oliver n'est pas le mieux placé pour promouvoir le local. On lui reproche de proposer des recettes trop grasses, trop longues à préparer, trop chères, quand il fait des vidéos avec le soutien de supermarchés qui en profitent pour promouvoir leurs produits. Heureusement, il n'y a pas que Jamie Oliver dans la vie et le Royaume-Uni a d'autres pourfendeurs de la malbouffe. En Écosse, à Édimbourg, Lewis McLachlan a fondé Empty Kitchen Full Heart, une sorte de banque alimentaire qui propose des repas préparés sur place avec des restes récupérés dans les supermarchés et restaurants locaux.
Ceux qui sont forcés à manger les produits qui sont de moins bonne qualité sont ceux qui ont le moins de moyens, parce que c'est moins cher. Cela perpétue le cercle vicieux. Mauvais aliments, moins de nutriments. Les enfants n'arrivent pas à se concentrer, ont moins d'énergie, moins de motivation. Ça empêche de s'épanouir. Si on mange mal, on se sent mal.
La prise de conscience est là au Royaume-Uni et la crise sanitaire y a été favorable, mais elle a aussi généré une très forte inflation, plus de 4% d'octobre 2020 à 21, ce qui pousse les prix vers le haut et finit à nouveau par obliger les moins aisés à choisir l'option la moins chère, même si c'est la moins saine.
La prochaine étape pour la politique agricole commune se joue au niveau des États membres. D'ici la fin de l'année, chacun devra annoncer à la Commission comment il va utiliser les fonds européens via des plans stratégiques nationaux. Avant l'adoption de cette nouvelle PAC, il y a eu entre-temps l'adoption dans l'UE du Pacte vert ainsi que la stratégie européenne de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, qui a profondément modifié les discussions autour de la politique agricole commune, comme l'explique l'eurodéputé Éric Andrieux, élu socialiste français. C'est l'un des trois rapporteurs de la PAC au Parlement européen.
Ce qui est nouveau dans la PAC, même si elle a été faite avant finalement le pacte vert et avant Farm to Fork, les stratégies européennes, c'est que l'acte matriciel, c'est effectivement l'objectif à 2050 de parvenir à un continent neutre en carbone. Et cet objectif-là, avec les objectifs intermédiaires en 2030, doit impacter toutes nos politiques publiques, dont la politique agricole. Ça veut dire qu'il faut que l'on parte à la reconquête à la fois des sols, à la reconquête de l'eau, à la reconquête de l'air, de la santé humaine, de la biodiversité. Et donc tout doit concourir à ces grands objectifs-là. Et effectivement, je pense qu'il faut que les aides publiques soient vertueuses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des grands objectifs et à la fois mettre en place des politiques publiques qui aillent à l'encontre de ces objectifs-là. Et ça, c'est le sujet qui nous occupe. C'est-à-dire que, en fait, on va essentiellement retrouver ce que j'appelle communément le volet écologisation de l'agriculture dans ce qu'on appelle les éco-schemes, c'est-à-dire dans la volonté des programmes nationaux. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit très vigilant, mais ça, seule la Commission va devoir donc le contrôler pour vérifier que les programmes proposés par chacun des États soient raccord, j'ai envie de dire, avec les grands objectifs liés à la biodiversité et au climat. Et donc, on va conditionner les aides publiques de plus en plus.
Et au-delà de la PAC, l'agroécologie, c'est une remise en cause complète de notre modèle européen. On le voit, par exemple, avec la directive sur les pesticides.
En 2022, on va revoir la directive sur l'utilisation durable des pesticides. L'objectif de Farm to Fork, c'est de dire qu'il faut, à 2030, réduire de 50% l'utilisation des intrants. Et donc, ça va se traduire dans la directive. Et ce qui n'est pas contraignant aujourd'hui va le devenir normalement, si le texte est voté, dès 2022. C'est ce qui va changer, finalement, les pratiques. La question de l'agroécologie, c'est pas un gros mot, c'est de remettre de l'agronomie dans l'agriculture. C'est-à-dire, donc, faire le lien entre agriculture, aliments, santé humaine et biodiversité, je pense que ce sont les valeurs qui doivent nous animer dans cette nouvelle politique agricole commune. Et la question, c'est la valeur. Vous savez, si on a une agriculture qui s'appelle agroécologie et qui met en avant l'agriculture biologique et qui crée plus de valeur pour l'agriculteur et ensuite qui protège mieux notre environnement commun, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les aménités positives, santé humaine, environnement, biodiversité, air, eau, etc. Pourquoi ne pas aller dans ce sens et réfléchir à ce nouveau modèle d'orientation? Mais tout simplement parce que les grands bénéficiaires de la PAC depuis plus de 50 ans, qui sont l'agrochimie ou l'agro-industrie, ne veulent pas que le modèle change parce que l'agriculture est au cœur d'un débat sociétal et doit participer finalement à l'organisation nouvelle de la société à l'échelle locale et internationale.
Merci Éric Andrieux, eurodéputé socialiste français, l'un des trois rapporteurs de la politique agricole commune au Parlement européen. La politique agricole commune qui a des effets loin de l'UE. La ferme Europe, c'est un mastodonte commercial, l'un des grands concurrents en lice sur les marchés mondiaux. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 55 organisations de producteurs et de productrices de lait local dénoncent une concurrence déloyale du lait en poudre importé d'Europe. Au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad, ces organisations ont lancé depuis 2018 une campagne baptisée « Mon lait est local ». Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Hydrac. Charlotte, au Sénégal, cette filière lait est très fragile.
Oui, et pourtant le lait, c'est un produit très consommé ici, hein, au petit déjeuner par exemple, comme rafraîchissement dans la journée, sous forme de lait caillé ou encore avec du couscous. Mais en fait, il s'agit essentiellement de lait importé, hein, de lait en poudre. C'est beaucoup plus facile à trouver sur les marchés, dans les boutiques, les commerces, hein, on en trouve partout. Et surtout, c'est moins cher que le lait produit localement, 30% moins cher selon la campagne « Mon lait est local ». Et les organisations qui participent à cette campagne, elles dénoncent par ailleurs le fait qu'il s'agit de lait de moindre qualité, puisque ce lait en poudre importé d'Europe, il est souvent composé de poudre écrémée et réengraissée ensuite avec de l'huile de palme et d'autres matières grasses végétales.
Charlotte, face à cette concurrence féroce, des acteurs tentent pourtant de structurer la filière. C'est le cas notamment de la laiterie du Berger dans le nord du Sénégal.
Et précisément à Richartol, c'est près de la frontière avec la Mauritanie. C'est une entreprise pionnière, créée en 2006, qui produit des yaourts à base de lait collecté au Sénégal. Son directeur, c'est Bagoré Batili.
On achète le lait, en effet, chez nos éleveurs à 320 francs par litre aujourd'hui. Et ça nous revient à l'usine environ à 460 francs. Si on achetait du lait poudre, aujourd'hui, même il est très haut, il reviendra à l'usine à 350 maximum. Ce n'est pas un pays qui a mis une barrière à l'entrée de la poudre, à la différence, par exemple, du Kenya ou du Maroc, enfin, des pays qui essayent de réguler les entrées pour favoriser un développement de leur filière. Et ça arrive au Sénégal pas cher. Donc, quand on a une alternative pas chère, on a vraiment peu d'incitation pour aller développer la filière locale.
Voilà, la laiterie du Berger travaille avec environ 1400 fournisseurs en exploitation. Ça correspond à un peu plus de 3000 familles d'éleveurs. Sachant qu'au Sénégal, il y a 360 000 familles d'éleveurs au total. Et c'est ça, hein, le paradoxe. Le Sénégal aurait la capacité d'être autosuffisant en lait, mais les producteurs ont du mal à vendre leur production.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour booster cette filière? Qu'est-ce qu'il y aurait comme piste ?
Alors la campagne Mon lait est local lance un appel aux consommateurs directement pour qu'ils favorisent l'achat de lait local, sauf qu'il y a toujours cet argument du prix. Il y a des appels aussi au gouvernement, aux structures de l'État pour qu'elles fassent plus, pour accompagner, pour soutenir les projets, pour développer des programmes pour les éleveurs. Et puis il y aurait le levier des barrières douanières, c'est-à-dire augmenter les taxes à l'entrée sur le lait européen importé. Alors, est-ce que ce serait la solution ? Voilà ce que répond Bagoré Batili.
Ben, à mon avis, non. C'est ça qui est compliqué. Le fait qu'il y ait du lait pas cher, c'est quand même un avantage pour les gens qui ont un pouvoir d'achat peu élevé. Et il y en a beaucoup. Donc, rendre le lait accessible, ça, c'est vraiment la position du ministère du Commerce, par exemple, au Sénégal. Moi, je pense qu'il a raison. Mais quand même, on est obligé de trouver une place pour le lait local. Donc, en même temps, là. En même temps. Donc, comment conserver... les accords de commerce, etc., mais tout en laissant une place pour les éleveurs locaux. Il y a de la place pour les deux filières. Dans toutes les transformations industrielles au Sénégal, on devrait utiliser de la poudre, parce que c'est pas cher, mais on devrait utiliser une partie de lait local. Une partie. Si ça, c'était d'usage, ça amorcerait l'affaire. Si la collecte s'est beaucoup développée parce qu'on a été bon, on pourrait incorporer de plus en plus. Et peut-être qu'un jour, on sera compétitif sur certains segments.
Il y aurait donc de la place pour les deux, le lait en poudre et le lait local. La laiterie du Berger est aujourd'hui une entreprise rentable, donc c'est la preuve que ça peut marcher. Et l'objectif pour son directeur, c'est qu'il y ait plus de laiteries équivalentes au Sénégal et plus largement dans les pays du Sahel.
Merci Charlotte Hydrac, envoyée spéciale permanente de RFI à Dakar. Cap sur la Pologne et sur la crise entre Varsovie et Bruxelles. À son arrivée au poste de Premier ministre il y a 4 ans, il était considéré comme un modéré, un partisan de l'ouverture au monde et à l'Europe. Mais aujourd'hui, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki apparaît comme l'un des champions en Europe du camp souverainiste Daniel Valot.
Aujourd'hui âgé de 53 ans, Mateusz Morawiecki est entré tardivement en politique. Jusqu'en 2015, c'est dans les milieux financiers qu'il évolue. Dirigeant de la filiale polonaise de la banque Santander, il en fait l'une des plus puissantes du pays. Et ce sont ses compétences économiques et managériales qui lui ouvrent les portes du pouvoir. Wojciech Ciebielski du centre de réflexion Visegrad Insight.
Sa première tentative pour entrer en politique, il l'a faite avec Donald Tusk, le premier ministre de centre-droit à l'époque où il dirigeait le pays. Et donc on a cru que c'était un modéré. Mais finalement, c'est avec Jaroslaw Kaczynski, le dirigeant du parti au pouvoir aujourd'hui, qu'il a eu sa chance. En tant que Premier ministre, il s'est montré très efficace, un peu comme le PDG d'une entreprise qui s'adapte à ce que veulent ses actionnaires. Et dans ce cas précis, il se trouve que ses actionnaires sont d'extrême droite.
Dans son bras de fer avec Bruxelles, un élément nouveau apparaît au cœur de l'automne. La crise suscitée par l'arrivée de milliers de migrants à la frontière avec la Biélorussie. Mateusz Morawiecki refuse l'intervention de Frontex, l'agence européenne chargée de surveiller les frontières, et choisit d'envoyer plus de 10 000 soldats sur la zone frontière fermée aux journalistes et aux ONG. Pour Judith Dempsey du centre Carnegie, cette politique de fermeté pourrait donner une nouvelle vigueur au parti au pouvoir à Varsovie.
La crise à la frontière a renforcé le parti Droit et Justice à un moment où ils étaient en train de baisser dans les sondages. Mais avec ce qui se passe à la frontière biélorusse, le point de vue nationaliste et conservateur a retrouvé de la vigueur, même s'il y a des critiques au sein de l'opposition et parmi les ONG. Il est clair que le parti au pouvoir va essayer de garder ce problème en haut de l'agenda pour gêner l'opposition et tous ceux qui espèrent un changement de gouvernement.
Malgré ses prises de position inflexibles, il est une ligne rouge que Mateusz Morawiecki ne franchira jamais, celle d'une sortie de l'Union européenne. L'ancien banquier, devenu l'artisan d'une politique ultra-conservatrice, sait qu'une très large majorité de Polonais, près de 70%, reste attachée à l'idée européenne.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.